Marc-André Leclerc.
Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
Ça vient comprendre? Marc-André Leclerc.
Sans plus tarder, allons rejoindre Maxime Lapointe, avocat en immigration. Bonjour Maxime.
Bonjour Marc-André.
Maxime, 49 jours avant l'élection provinciale du 3 octobre, eh bien c'est sûr que éducation, finance, santé, environnement, bon, les sujets on les connaît, mais toi Maxime, là, il y a un sujet que tu penses que nos politiciens devraient aborder, c'est le consentement présumé au don d'organes. Toi tu penses Maxime que ça doit faire partie là, de la campagne électorale?
Absolument, je pense que le timing est excellent pour en parler. Là. Bon, le sujet de l'actualité sur lequel je me raccroche, Marc-André, c'est qu'il y a eu une quadruple grève d'organes en Ontario, là, monsieur, qui a eu la même maladie que son enfant. Donc là, c'est l'enfant actuellement qui a eu une grève de foie, intestin, estomac, pancréas. Écoute, c'est pas rien, c'est des organes vitaux. Au Québec, sur le site de Transplant Québec, on peut voir en tout temps là, le nombre de personnes en attente de greffe, le nombre de donneurs, le nombre de greffes réalisées. Donc, les chiffres sont quand même encourageants d'une année à l'autre. Mais le problème, Marc-André, c'est au niveau du consentement. Ouais. Actuellement, la loi, c'est que si c'est pas oui, c'est non. Donc, ce qu'ils vont renverser, c'est le faire d'autres preuves. Et si c'est pas non, clairement indiqué... c'est oui, on ne peut pas se permettre de perdre des organes. Et selon moi, le don d'organes rentre aussi avec la santé, le droit à la vie, hein, qui est un droit constitutionnel. Donc, ça fait quand même l'unanimité, tu sais, l'adhésion au don d'organes au Québec. C'est juste que, par contre, au niveau du consentement, des fois, les familles vont dire non sans trop savoir pourquoi. On pourra parler plus tard, si tu veux, des raisons de refus majeures. Mais faut juste renverser le rapport de force. Et c'est dans le Code civil. Donc, c'est pas une réforme qui serait majeure. Et je pense qu'il doit y avoir absolument un parti provincial qui prend la balle au bon.
Mais est-ce que tu sens qu'il y a pas un malaise, là, comme l'ensemble, on peut rattacher ça un peu aux enjeux plus sociaux, là, où chacun a l'aide médicale pour mourir, par exemple. Chacun a sa définition, puis chacun pense qu'à quel moment ou si la personne est atteinte de la maladie X, ben il devrait avoir le droit, puis l'autre, il devrait pas le plein consentement, puis y a-tu un, deux, trois médecins qui devraient donner son accord. Est-ce que tu sens qu'il y a un malaise? Pourquoi on n'en parle pas autant, selon toi?
C'est une bonne question. Je pense que c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs aujourd'hui. Oui. Là, le but, c'est d'amener important. Le débat parce que selon moi, c'est dans la continuité de l'aide médicale à mourir, là, justement. Donc, quelqu'un, justement, qui voudrait bénéficier de l'aide médicale à mourir. Puis oui, tu as raison, Marc-André, de dire certaines personnes peuvent être plus ou moins favorables à certains critères. Mais je pense que dans l'ensemble, sur l'acceptabilité sociale de l'aide médicale à mourir, je pense que c'est très élevé. Et dans ce contexte-là, ben les organes, si tu veux bénéficier de l'aide médicale à mourir, les organes appartiennent à l'État, à quelque part, là, à ton décès. Là. Donc, je pense que c'est pas... Il faut être vraiment client pour savoir c'est quoi. Moi, tu sais que ma fille a eu une grève de foie à 7 mois.
OK, wow, OK.
Donc, moi, j'ai passé par tout le processus, là, justement, puis je t'épargne les grands détails là, de l'angoisse, la peur d'enterrer son enfant, mais ne serait-ce que on rencontre tous les intervenants du département ici à Sainte-Justine, chirurgien, travailleur social, psychologue, et l'équipe est complète, puis ils veulent s'assurer que ton consentement est éclairé, à savoir est-ce que, comme parent, tu veux ou pas te porter d'honneur de ton enfant. Mais ce qui a attiré mon attention récemment encore, c'est qu'il y avait une statistique qui disait qu'au Québec, le taux de refus vient encore dans 26 % des cas, malgré le consentement préalable du défunt. Donc, imagine, la personne décède, dit oui, signe sa carte de don d'organes, s'est inscrit au registre de la RAMQ ou sur la Chambre des notaires du Québec. Il y a des registres publics. Mais la famille dit, ah non, finalement, ça va être non. T'sais. Donc, premièrement, je veux te le dire.
La famille a le droit... OK, fait que mettons, là, moi, là, j'ai tout rempli ma paperasse. Là. J'ai signé mes affaires, l'autocollant, le registre. Mais là, après ça... Je décède demain matin, ma famille peut dire non, mais finalement, ça va être non.
La famille pourrait encore dire non. Mais les raisons les plus fréquentes, selon moi, c'est tous des mauvaises raisons, je vais te le dire d'emblée. L'intégrité du corps du défunt à 28 %, un motif d'ordre religieux, pardon, à 11 %, la brutalité, la soudaineté du décès, 9 %, le déni de la mort, 6 %, l'âge jeune du donneur, 5 %. Donc, selon moi, tous des raisons, là, la personne est décédée. Puis si on avait à hiérarchiser, les droits constitutionnels, ben le droit à la vie est plus fort que la liberté de religion, à mon avis. Là.
Mais pourquoi on laisse cette porte ouverte-là aux membres d'une famille de dire non par après, là? Tu sais, je veux dire, si moi j'ai décidé de donner mon cerveau, mon cœur à la science, mon cerveau à la science, ou de le donner en don de... Pourquoi on laisse
l'information se rend peut-être pas non plus. On est d'accord, Marc-André, que c'est pas tout le monde qui va aller s'inscrire dans les registres publics. La carte d'assurance maladie, elle a une certaine validité. Ça peut arriver des fois qu'elle soit pas signée. Donc, j'invite les gens à signer leur carte rapidement.
Mais est-ce qu'il y a une façon pour monsieur, madame, tout le monde, justement, qui veut vraiment faire un don d'organes, de s'assurer que la famille ne puisse pas renverser cette décision-là, ou...
Moi, j'ai l'impression que dans le registre public, ça doit être quand même difficile à contester. Là. Mais si on renversait le rapport de force et on disait le consentement est présumé, donc ça veut dire que si la personne n'a pas manifesté à sa famille son refus, alors la greffe va pouvoir se poursuivre. Et généralement, les familles, eux, c'est plus de l'ignorance. Ils vont dire, je sais pas, on n'avait jamais entendu parler de ça, finalement. Donc dans le doute, on répond pas, on répond mal, peu importe. Donc, c'est seulement de renverser le fardeau. Tu sais que la Nouvelle-Écosse le fait récemment, là, dans la dernière année. Là, donc, au Canada, on va pouvoir voir des détails. Mais honnêtement, c'est pas une réforme à tout casser, là. On va pas changer le système de santé au complet, mais ça, on peut éviter de jeter des organes. Tu sais, la durée de vie d'un foie, d'un pancréas, le temps compte. Puis dans le Code civil, qui date quand même de 1991, il y a des articles 43 à 45 où on en parle. Puis il y a des zones grises aussi, donc il y a de l'interprétation. Tu sais, exemple, si deux médecins confirment que ce serait trop long de rejoindre la famille du donneur, ils peuvent décider de garder les organes. Donc, il y a quand même des portes législatives dans le Code civil. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a un parti provincial qui va prendre la balle au bon et qui va dire, oui, nous, le don d'organes, on l'inclut dans l'aide médicale à mourir. Voici notre position sur le sujet.
Effectivement. Donc, ça sera intéressant de voir. Il reste encore 49 jours avant le vote et on verra si ce sujet-là va être abordé. Avant de se laisser, Maxime, première page là du journal là, ce matin, encore une fois, là, un autre échec là, du fédéral. Là. Il y a une famille là, qui est coincée en France malgré le fait là, qu'elle a sa résidence permanente là, ici au Canada.
Oui. Bon, c'est sûr que ça paraît jamais bien. En même temps, j'ai deux écoles de pensée, Marc-André, là-dessus. La première, c'est les lois de l'immigration sont claires, ça prend une carte de résident permanent pour voyager au Canada. Donc, ça veut dire ce qui arrive trop souvent, malheureusement, c'est que les gens sont approuvés à l'intérieur du Canada. On en a déjà parlé cet été avec Patrick, entre autres. Oui. Plus en plus de demandeurs de résidence permanente qui sont déjà au Canada. Donc, évidemment, avec la pandémie, le stress de renouveler un statut, des fois même un statut implicite quand on a renouvelé une demande, mais on n'a pas encore un statut officiel vu les délais de traitement qui sont débiles. Donc, il y a des gens qui... dès qu'ils ont la résidence permanente, veulent partir voir leur famille dans leur pays d'origine, peu importe le pays. Mais ces gens-là attendent pas nécessairement leur carte, donc voyagent et se retrouvent un peu dans le pétrin quand ils veulent revenir. Cette famille-là, c'est un peu la même situation, mais pas tout à fait. Eux, ils s'attendaient d'avoir un traitement qui allait se terminer en 2023, mais dans les derniers mois, je dois t'avouer que la pression médiatique, sans doute, les poursuites... judiciaires envers Immigration Canada ont accéléré beaucoup les délais de traitement de résidence permanente pour les dossiers du Québec, ce qui est une bonne chose. On est passé de 27 mois à plus ou moins 12 mois. Là, je te dirais, Marc-André, les derniers dossiers de résidence permanente, ça va quand même très bien. Okay. Comme professionnel, je me plains pas. Là, ça a déjà été de pire de beaucoup. Par contre, c'est la carte. Donc là, la confirmation de résidence permanente est approuvée. Mais la carte, ça peut prendre 2-3 mois. Généralement, on disait 4 à 6 semaines. Tu vois, j'ai une dame qui l'a eu la semaine dernière. On avait envoyé la carte au mois de juin. Et ça dépend d'une personne à l'autre. Mais bref, si on veut voyager, on n'a pas la carte de résident permanent. Il faut demander un titre de voyage pour résident permanent. Donc, là, c'est une autre formalité administrative qui, évidemment, va pas être traitée à l'intérieur d'un voyage en France, par exemple, de 2-3 semaines. Donc, les gens se retrouvent pris. Première page du journal et ma recommandation d'expert, ça n'est pas si compliqué que ça à appliquer non plus. Là, c'est pas de la science nucléaire, là. La confirmation de résidence permanente, une fois que c'est approuvé, doit servir de document de voyage dans l'attente de la carte. C'est pas plus compliqué que ça.
OK.
Parce que dans le fond, la carte est délivrée absolument au Canada. Donc, on veut éviter que les gens demandent la résidence permanente, retournent dans leur pays et reviennent jamais, mais avec une carte au cas où, ce serait un beau plan B. Donc, tu sais qu'il y a une obligation de résidence aussi au Canada. Quand on devient résident permanent, on doit rester sur le territoire pendant 730 jours, donc 2 ans sur une période de 5 ans. Des fois, il y a des gens qui le respectent plus ou moins, mais c'est pas le cas du jour. Le cas du jour, c'est vraiment, la carte est jamais arrivée, puis eux, ils s'attendaient que le dossier allait se traiter 6 mois, 1 an plus tard. Donc, ils avaient prévu des voyages, des vacances en France et ne peuvent plus revenir. Donc, ce document-là, qui est la confirmation de résidence permanente, qui n'est pas rien, là, qui est quand même un document officiel émis par Immigration au Canada, doit faire preuve de document de voyage pour éviter que des situations catastrophiques comme ça se produisent. Les gens ont peur de perdre leur emploi. Des fois, ils ont des appartements. Ils peuvent même avoir, je ne sais pas, des animaux de compagnie. Leur vie est ici. Là, la résidence est approuvée. On ne peut pas les empêcher de rentrer au Canada. C'est pas vrai. Là.
Donc, dans le fond, le conseil, c'est de, pour des gens dans cette situation-là, c'est de s'assurer d'avoir leur carte ici, au Canada, avant de planifier un voyage.
Moi, ce que je dis toujours, c'est ne planifiez pas de voyage justement avant d'avoir eu la carte. Mais j'avoue que ça crée de la déception parce que les gens me disent, oui, mais quand est-ce qu'on va l'avoir? Ça va prendre combien de temps? Puis mes billets sont
déjà... C'est un peu la même chose avec le passeport. Ces temps-ci, t'es mieux d'avoir ton passeport à jour avant de planifier un voyage.
C'est absolument, les passeports. Puis c'est un peu la même situation, t'as raison, parce que... Les passeports, la carte de résident, il y a quand même un fournisseur qui fournit le carton du passeport, le plastique de la carte. Il y a plusieurs employés qui travaillent dans la chaîne aussi pour imprimer, pour la poster. Donc, des cartes de résident permanents, justement, on envoie ça par la poste. Les délais postaux, on a vu dans les dernières années, les délais de Poste Canada, c'est toujours un problème. Donc, c'est toute la machine gouvernementale fédérale qui est un peu encrassée. Mais surtout, au niveau de la carte, le problème, c'est... Ça vient du fait, entre autres, que le gouvernement du Canada, lui, veut augmenter ses niveaux d'immigration. Donc, évidemment, lui, il vient traiter des dossiers du Québec, ce qui est une bonne chose de rapetisser les inventaires de dossiers. Là, je t'en passe un papier. Mais ce que ça crée, au final, ça crée une surchauffe pour la demande de carte de résident permanent qu'on n'avait peut-être pas anticipé. Tu sais, oui, on voulait traiter les dossiers, baisser les inventaires, mais est-ce qu'on avait prévu qu'à la fin de tout ça, il y a des cartes envoyées par la poste?
Excellent. Un gros merci, Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. On se reparle demain.
À demain.